Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Monsieur Clady, bonjour. Je peux vous présenter parce que, pour être tout à fait transparent avec nos auditeurs, vous êtes mon collègue à l'Agence française anticorruption et vous êtes chargé des acteurs économiques. J'ai sollicité votre témoignage aujourd'hui pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'il existe des entreprises publiques locales qui sont avant tout des entreprises, donc ce que vous allez nous dire est intéressant de ce point de vue. Mais aussi parce que nous recommandons aux collectivités locales d'évaluer l'intégrité des tiers et donc l'intégrité des entreprises.
Bonjour Olivier, merci pour cette invitation.
Alors, tout d'abord, première question, les entreprises publiques locales sont-elles tenues de mettre en place des mesures anticorruption ?
Pour répondre simplement à votre question, oui, dès lors qu'elles remplissent les conditions qui ont été fixées par la loi, conditions de seuil et également conditions de localisation du siège social.
Donc le fait qu'elles soient détenues par des entités publiques ne change donc rien ?
Absolument rien, si ce n'est que la gouvernance peut être différente. La loi Sapin 2 précise d'ailleurs dans son article 17 que les sociétés visées peuvent appartenir à un groupe public répondant à des conditions d'effectifs et de chiffre d'affaires, comme je le mentionnais. Plus exactement, la loi Sapin 2 ne mentionne rien en particulier, elle parle de sociétés. Donc ce peuvent être des sociétés publiques locales, des SEM, des SEMOP, etc.
D'accord, je comprends. Donc toutes les entreprises sont soumises aux obligations de l'article 17 de la loi Sapin 2.
Alors vous avez raison de poser la question. Toutes les entreprises, non. Il existe des seuils, comme je le mentionnais, au-delà desquels la mise en œuvre de mesures anticorruption est une obligation légale qui a été définie à l'article 17 de la loi. L'entreprise doit avoir un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros, elle doit employer au moins 500 salariés, et enfin, je parlais tout à l'heure de localisation du siège social, elle doit bien sûr avoir son siège social en France.
D'accord. Je comprends que ces seuils sont cumulatifs.
Tout à fait. J'ajoute que ces seuils peuvent être calculés évidemment au niveau de la société, mais aussi au niveau du groupe de société. Lorsqu'on parle de chiffre d'affaires, il peut s'agir du chiffre d'affaires consolidé. Nous parlons également de sociétés, mais l'article 17 mentionne explicitement les établissements publics industriels et commerciaux également.
D'accord. Mais vous pensez aux offices publics de l'habitat, par exemple ?
Effectivement, mais pas seulement. Vous avez aussi, à titre d'exemple, la RATP, l'Agence française de développement, l'Institut national de l'audiovisuel, Business France, pour en citer quelques-uns. Et puis, beaucoup d'établissements dont les Français ignorent souvent qu'ils sont des établissements publics industriels et commerciaux, comme la Comédie française, l'Opéra de Paris, la Philharmonie de Paris pour les Franciliens ou la Société du Grand Paris.
Oui, effectivement, c'est assez vaste. Maintenant que nous connaissons un peu mieux le périmètre des sociétés, des EPIC soumis aux obligations de l'article 17 de la loi Sapin 2, que nous dit cet article précisément ?
Plusieurs enseignements. Il faut comprendre que cet article il est scindé en deux. Il y a un grand 1 qui impose aux dirigeants des entreprises que j'ai précédemment citées de mettre en place des mesures anticorruption. Et dans son grand 2, l'article 17 détaille l'ensemble des mesures pour former un dispositif anticorruption.
Revenons sur cet alinéa premier, si vous le voulez bien. Ai-je bien compris, les dirigeants sont personnellement responsables de la mise en œuvre des mesures constitutives d'un dispositif anticorruption ?
C'est exact, c'est une des grandes originalités de la loi. La loi dit bien qu'ils sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la corruption et le trafic d'influence. C'est une obligation personnelle. Elle ne peut pas juridiquement se déléguer. Évidemment, opérationnellement, elle peut se déléguer, mais ses dirigeants seraient attrés devant une commission des sanctions de l'AFA s'ils ne mettaient pas en place ces mesures.
Et comment est sanctionné le non-respect de cette obligation ?
Alors, j'ai commencé un petit peu à en parler. Lorsque l'AFA décide de contrôler une société sur le fondement de l'article 17 et qu'à l'occasion de ce contrôle, elle relève ce qu'on appelle un grief, un manquement à la loi, le directeur peut leur infliger un avertissement. Il peut aussi convoquer la commission des sanctions qui infligera une sanction pécuniaire aux dirigeants pouvant aller jusqu'à 200 000 euros. La commission des sanctions pourra aussi infliger une sanction pécuniaire à l'endroit de la personne morale, de la société, qui peut atteindre jusqu'à 1 million d'euros.
Ah, effectivement, ce n'est pas rien. Alors, c'est assez clair pour l'alinéa 1er. Et s'agissant de l'alinéa 2 de l'article 17 de la loi, que nous dit-il ?
Dans cet alinéa 2, finalement, on a énoncé l'ensemble des mesures très précises qu'il convient de mettre en œuvre dans le cadre d'un dispositif anticorruption. Je dis qu'il convient, mais en réalité, vous avez bien compris qu'il s'agit d'une obligation pour les entreprises qui sont assujetties. Alors, les mesures, je vais vous les citer une fois dans l'ordre d'énoncé de la loi. Première mesure, un code de conduite anticorruption. Seconde mesure, un dispositif d'alerte interne anticorruption. Troisième mesure, une cartographie des risques de corruption et de trafic d'influence. Quatrième mesure, des procédures d'évaluation de la situation des clients, des fournisseurs de premier rang et des intermédiaires au regard de la cartographie des risques. Cinquième mesure, des procédures de contrôle comptable anticorruption. Sixième mesure, un dispositif de formation des personnels les plus exposés aux risques de corruption. Septième, un régime disciplinaire. Et enfin, j'en termine, un dispositif de contrôle et d'évaluation interne de ces mesures qui constitue la huitième mesure du dispositif.
Merci pour ces précisions. Donc, on a un dispositif, si je comprends bien, on a un dispositif en huit mesures. Est-ce que cela veut dire qu'il faut mettre en œuvre ces huit mesures, faute de quoi on n'a pas du tout de dispositif ?
En tout cas, on considère que, et c'est ça qui est marqué dans la loi, que si vous n'avez pas un dispositif qui tient la route si vous ne mettez pas en œuvre l'ensemble de ces huit mesures.
D'accord. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, je vais vous donner quelques exemples. Si on n'a pas de cartographie des risques de corruption, en réalité, vous n'êtes pas en mesure d'apprécier les zones de risque et conséquemment les mesures que vous pourriez prendre pour essayer de faire face à ces situations à risque. Situations à risque qui sont évidemment propres à votre organisation. Donc, dans ce cas-là, votre dispositif est un peu abstrait, il est un peu déconnecté de la réalité de votre entreprise. C'est un peu comme essayer de combattre ce que vous n'avez pas préalablement identifié, c'est assez illusoire, donner en quelque sorte des coupes d'épée dans l'eau, mieux avoir une canne à pêche.
Oui, votre exemple est assez parlant en réalité.
Alors effectivement, je vais vous donner d'autres exemples. Si vous ne formez pas vos personnels, par exemple, ils ne savent pas reconnaître les situations à risque, ils ignorent quel comportement adopter lorsqu'ils sont confrontés à ces situations, ils ne maîtrisent pas votre politique anticorruption, et partant, vous avez beau mettre en œuvre ce dispositif au sein de votre organisation, étant donné que le personnel ne le maîtrise pas, il perd en soi toute forme d'efficacité. Enfin, dernier peut-être exemple, sur les mesures d'évaluation interne, si régulièrement vous ne remettez pas l'ouvrage sur le métier, si vous n'évaluez pas votre dispositif de contrôle interne, il perd en efficacité, vos mesures sont dépassées, voire contournées par ceux qui souhaiteraient se livrer à ces faits de corruption ou de trafic d'influence.
Alors vous êtes en train de me dire en réalité que ces huit mesures correspondent à une certaine logique. Par exemple, s'il n'y a pas de dispositif d'alerte interne, l'entreprise ne permet pas la remontée d'informations sur des situations qui pourraient être préjudiciables pour elle ou des informations qui sont nécessaires à la modification de ses procédures. C'est logique et nécessaire à la cohérence du tout, je le comprends tout à fait.
C'est ça.
Alors, revenons dans le détail sur ces huit mesures, si vous le voulez bien. Je sais, pour être moi-même en fonction à l'Agence française anticorruption, que les recommandations de l'AFA viennent détailler ces points. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices ce que sont les recommandations de l'AFA ?
Alors, tout à fait. Pour accompagner les mesures qui sont décrites à l'article 17, hein, de façon assez succincte dans la loi a également chargé l'AFA d'élaborer et de mettre à jour des recommandations adaptées à la taille des entités concernées et à la nature de leur risque de corruption. Alors, ces recommandations sont publiées au journal officiel. Elles ont donc une valeur légale, mais elles ne sont pas contraignantes. Les entreprises, du coup, sont libres de les suivre ou de choisir une autre méthode pour peu qu'elles soient conformes à l'objectif qui est fixé dans l'article 17, qui est de prévenir et détecter la corruption.
Alors, en quelque sorte, l'article 17 nous donne la composition d'un dispositif anticorruption cible, j'ai envie de dire, et les recommandations nous fournissent la méthodologie. Est-ce cela ?
C'est tout à fait exact. Les recommandations viennent expliciter l'article 17, ou en tout cas les mesures prévues au 2 de l'article 17.
D'accord. Alors, concrètement, que retrouve-t-on dans ces recommandations ?
Alors, dans ces recommandations, c'est un document hein, qui explique dans le détail ce qui est attendu des entreprises dans le cadre de la mise en œuvre effective et adaptée des dispositions de l'article 17 de la loi Sapin 2.
Les recommandations évoquent, je crois, des piliers. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pilier ?
Un pilier, c'est en quelque sorte une image qu'on a retenue à l'agence qui explique la logique d'un dispositif anticorruption. Chaque pilier correspond donc à un de ses fondements. Il y a trois piliers dans la mise en œuvre d'un dispositif anticorruption. Le premier pilier, c'est l'engagement de l'instance dirigeante. Le second pilier, qui est pour nous la pierre angulaire du dispositif, c'est la cartographie des risques de corruption. Et puis le troisième pilier correspond à l'ensemble des mesures destinées à gérer ces risques.
D'accord, donc il y a trois piliers. Est-ce qu'on peut commencer par le premier pilier ? Passons en revue ce premier pilier, si vous le voulez bien.
Alors oui, le premier pilier, c'est celui de l'engagement de l'instance dirigeante. Dans le langage des entreprises un peu teintées d'anglais, on parle de « tone at the top », le ton au sommet. Alors, il se traduit par plusieurs actions. La première, il s'agit d'ériger la lutte contre la corruption en priorité de l'entreprise. Second type d'action, communiquer et diffuser une culture de la conformité à l'intérieur de l'organisation. Troisième type d'action, définir une stratégie de gestion des risques. Et puis enfin, une fois que la stratégie a été définie, doter la fonction conformité, si elle existe, des moyens nécessaires à l'exécution de cette stratégie. Alors, l'engagement de l'instance dirigeante, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle se traduit également par une politique affirmée, claire, de tolérance zéro, ainsi que par un principe d'exemplarité du management. Dernier point, on ne pourra jamais insister assez, est fondamental, car il semblerait incohérent de notre point de vue, d'exiger des personnels ce que les dirigeants n'exigent pas d'eux-mêmes.
Alors, le deuxième pilier, ou fondement, c'est la cartographie des risques de corruption. Alors, on comprend bien que ce que nous disions en introduction. La cartographie est l'élément central d'un dispositif, d'où le fait qu'elle soit considérée comme un pilier.
C'est tout à fait ça. Établir une cartographie des risques, c'est identifier dans un premier temps les scénarios de risque au sein de chaque processus de l'entreprise. Évaluer ensuite la probabilité de réalisation de ces scénarios de risque et leur impact, en prenant en compte d'éventuels facteurs aggravants. Enfin, c'est évaluer le niveau de maîtrise par l'entreprise de ces risques identifiés, ce qui va permettre ensuite de hiérarchiser ces scénarios de risque. Hiérarchiser ces scénarios de risque, pour quoi faire ? Tout simplement pour mettre en place les plans d'action, avec un ordre de priorité qui vont permettre de mieux maîtriser ces risques en allouant les moyens les plus importants aux risques identifiés comme majeurs dans la cartographie. L'ensemble de ces actions, de ces quatre actions que je viens de décrire, constitue la cartographie des risques, qui doit être soigneusement, évidemment, conservée et faire l'objet d'un suivi régulier par l'entreprise. De la même manière que l'entreprise évolue, évidemment, on s'attend à ce que la cartographie des risques fasse l'objet d'une actualisation régulière. Ce qu'il est dit dans les recommandations, c'est que l'on doit au moins se poser la question de son actualisation une fois par an.
D'accord. Donc après le premier pilier, le deuxième pilier. Qu'en est-il de notre troisième pilier ?
De cette cartographie des risques vont découler effectivement des mesures de gestion des risques, mesures qui constituent ce troisième pilier, mesures les plus concrètes pour nos auditeurs. Alors habituellement, ces mesures de gestion des risques, on les articule dans un triptyque, le triptyque prévention, détection, remédiation. Alors si je regarde le premier volet de ce triptyque, la prévention, l'agence a choisi de retenir trois mesures de prévention. La première mesure, c'est l'élaboration d'un code de conduite. Alors le code de conduite, c'est un document qui est opposable au personnel et qui contient les principes anticorruption de l'entreprise et manifeste l'engagement de l'instance dirigeante. Il informe par exemple sur le fonctionnement de l'alerte interne, il précise ce qu'est le régime disciplinaire applicable au personnel et il peut également aborder un certain nombre de thèmes importants comme la politique cadeaux et invitations, la gestion des conflits d'intérêts ou la manière d'entrer en relation avec des fournisseurs. La seconde mesure de prévention, très importante, c'est la formation. Normalement, dans votre exercice de cartographie des risques, vous avez pu déterminer ce que sont les personnels qui sont les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence et qui doivent, selon la loi, faire l'objet d'une formation approfondie qui est obligatoire. Pour le reste des personnels, bien évidemment, une sensibilisation est conseillée, même si elle n'est pas obligatoire. La formation a pour but de procurer des connaissances, des compétences, c'est en ça qu'elle se distingue d'une sensibilisation, sur les risques potentiels et notamment les comportements à adopter face à ces risques, le contenu de la formation et de la sensibilisation devant être adapté évidemment à chaque catégorie de personnel.
Alors, ce que vous dites est fondamental en réalité, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de formation de sensibilisation à la fois des agents, mais aussi des élus territoriaux. Alors, il existe une obligation de formation initiale pour beaucoup d'agents territoriaux, et il existe aussi un droit à la formation continue, notamment qui est dispensé par le CNFPT, à la formation des agents territoriaux, et depuis peu, enfin depuis quelques années tout de même, un droit à la formation des élus territoriaux. Donc tout ça pour vous, effectivement, je suis d'accord avec vous, la formation est tout à fait primordiale. Alors, on a peut-être encore une mesure ?
Effectivement, la dernière et troisième mesure du volet de prévention, c'est l'évaluation des tiers. L'idée sous-jacente ici, c'est qu'avant de rentrer ou de poursuivre une relation avec un tiers, il est préférable pour l'entreprise de bien le connaître et d'apprécier le risque qu'il peut éventuellement lui faire courir. Pour ce faire, l'AFA recommande aux entreprises de recenser tous leurs tiers, de les regrouper en fonction de leur profil de risque en catégories homogènes, suivant les résultats de la cartographie, et ensuite de déterminer une méthode systématique d'évaluation de chacune de ces catégories homogènes afin de procéder à une évaluation, là pour le coup, individuelle. Recenser tous ces tiers, évidemment, ça ne veut pas dire évaluer tous ces tiers. C'est d'ailleurs pas ce que demande la loi. Nul besoin en effet d'évaluer les tiers qui sont classés dans des groupes ne représentant, a priori, peu de risques. Enfin, avoir un tiers très risqué, ça ne signifie pas qu'il faille mettre un terme à la relation, c'est pas ce que demandent les recommandations. Dans ce cas, l'AFA préconise de mettre en place des mesures de vigilance pour sécuriser la relation et essayer de maîtriser le risque de corruption.
Alors, ce que vous dites est assez intéressant, parce qu'en réalité, ce concept d'évaluation des tiers est assez récent pour les collectivités territoriales. Alors, nous parlons des entreprises, hein, mais c'est aussi quelque chose que nous demandons aux collectivités territoriales de faire, évaluer leurs tiers. Et c'est vrai que c'est un concept assez récent dans la fonction publique territoriale et nationale également. Alors, après les mesures de prévention, j'imagine qu'il y a des mesures de détection.
Effectivement, deuxième volet de ce triptyque que j'annonçais tout à l'heure, on y retrouve ici principalement deux mesures. La première mesure, c'est le dispositif d'alerte interne anticorruption. Ça doit permettre de faire remonter tout comportement qui est contraire au code de conduite, afin que l'entreprise puisse mettre un terme à la situation anormale qui est remontée à travers ce dispositif d'alerte, et puis, le cas échéant, adapter ses procédures internes si elles n'ont pas permis de prévenir le comportement en question. La deuxième mesure de détection sont les procédures de contrôle interne et de contrôle comptable auxquelles on adjoindra l'évaluation globale du dispositif. Alors, ces mesures, elles visent plusieurs objectifs. Déjà, dans un premier temps, contrôler la mise en œuvre du dispositif et son efficacité. Identifier d'éventuels manquements, non-respect d'une procédure par exemple, non-respect de la politique cadeau et invitation. Elle vise aussi à remédier à d'éventuels manquements par des mesures correctives. Et enfin, on peut espérer, même si c'est rarement le cas, elles doivent permettre de détecter des faits contraires à la loi. Là, je vise des faits de corruption, de trafic d'influence.
D'accord. Il nous reste peut-être encore un volet de mesures ?
Alors, tout à fait. Dernier volet de mesures, les mesures de remédiation. C'est évidemment, si on a mis en lumière une situation, il convient d'y remédier dans les plus brefs délais. Lorsqu'un risque se réalise, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il montre que le dispositif anticorruption a été mis en échec, contourné, ou en tout cas qu'il n'est pas suffisant pour prévenir la réalisation de ce risque. Dans cette situation, l'entreprise généralement va adapter les mesures déjà prises ou adopter de nouvelles mesures complémentaires, donnant ainsi une forme de caractère réactif, assez dynamique à ce dispositif anticorruption, en l'inscrivant dans une démarche d'amélioration continue. Au-delà de ces mesures correctives portant sur le dispositif en lui-même, nous sommes assez attachés à ce que des sanctions disciplinaires, si elles sont appropriées, soient prononcées. C'est une des dimensions de la politique de tolérance zéro de la direction que j'évoquais tout à l'heure à l'égard de la corruption. Ce régime disciplinaire doit permettre de dissuader les comportements évidemment contraires à la loi, mais surtout les comportements contraires au code de conduite et qui sont illustrés dans le code de conduite. Évidemment, avant ces mesures disciplinaires, il peut y avoir un certain nombre de mesures conservatoires qui sont prises. Et ces mesures ne sont pas exclusives, puisqu'on parle de corruption et de trafic d'influence dans les cas les plus graves, ne sont pas exclusives d'éventuelles poursuites pénales dans un second temps. Alors ces poursuites, ben, évidemment, il faut que l'entreprise dépose plainte et prévienne l'autorité judiciaire, en l'occurrence en faisant un signalement au procureur de la République. Puisque nous parlons beaucoup d'entreprises publiques locales, certaines d'entre elles peuvent être notamment assujetties à l'article 40 du Code de procédure pénale qui leur fait obligation de révéler au procureur tout fait délictueux.
D'accord, si je comprends bien, on peut sanctionner de manière disciplinaire. C'est pas exclusif de la sanction pénale, alors qui dépend pas de la collectivité, de l'entreprise en tout cas, mais qui dépend du procureur et du dispositif judiciaire. Mais c'est pas exclusif l'un de l'autre, c'est ça, hein ?
Tout à fait, les deux peuvent se combiner.
Alors, si on veut précisément mettre en œuvre chacun de ces 8 points, il y en a quand même 8, c'est assez long, est-ce qu'on se réfère aux recommandations de l'AFA ?
Alors voilà, c'est à ça que servent les recommandations de l'AFA très concrètement. S'agissant d'une entreprise, ces recommandations sont construites en trois parties. Il y a une partie générale, introductive. Il y a une deuxième partie qui vise précisément les entreprises, celles qui sont assujetties au titre de l'article 17. Et il y a une troisième partie, si vous êtes une administration, collectivité par exemple, vous vous référez à la partie 3 des recommandations.
Alors, merci beaucoup. Alors, jusqu'à présent, nous avons parlé des entreprises qui étaient soumises au seuil de l'article 17.2 de la loi Sapin 2. Qu'en est-il des autres entreprises, c'est-à-dire celles qui ne sont pas soumises à ces seuils ?
Alors, par définition, les entreprises non assujetties n'ont pas l'obligation de mettre en œuvre les mesures. Pour autant, on aime dire à l'agence, c'est qu'elles y ont fortement intérêt. En premier lieu, ça leur permet de se positionner de façon plus favorable auprès de leurs clients, qui peuvent être amenés à les évaluer si ces clients sont eux-mêmes soumis à la loi Sapin 2 et qu'ils mettent en œuvre l'une des mesures dont nous avons parlé, qui est l'évaluation des tiers. Ça permet également d'augmenter leurs chances de financement auprès des banques et des investisseurs qui sont généralement, eux, soumis à la loi Sapin 2 et procèdent à une évaluation des tiers. Enfin et surtout, peut-être le point le plus important, c'est que ça leur permet d'éviter les conséquences négatives que peuvent causer un cas de corruption ou de trafic d'influence, s'il n'est pas fréquent, lorsqu'il arrive, peut avoir des conséquences fortement dommageables pour l'organisation. Conséquences évidemment pénales, juridiques, mais également humaines, financières, réputationnelles. Enfin, la mise en œuvre d'un tel dispositif est de nature, en tout cas nous le croyons, à renforcer la compétitivité et à optimiser la gouvernance des entreprises. Alors, ces recommandations, on le reconnaît bien volontiers, peuvent paraître parfois complexes pour les plus petites entreprises. Et l'AFA a donc rédigé un guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, les entreprises de taille intermédiaire, afin de les aider à déployer des mesures anticorruption sans rentrer dans le degré de complexité qui est attendu pour des grandes entreprises.
D'accord. Donc si je comprends bien, il y a deux catégories d'entreprises. Il y a les grandes entreprises qui sont soumises au seuil. Elles ont l'obligation. Les autres entreprises n'ont pas vraiment une obligation légale, mais elles y ont intérêt en réalité.
C'est tout à fait ça.
D'accord. Alors, j'ai une dernière question. Si je suis une collectivité territoriale, qu'est-ce que je peux demander à une entreprise pour qu'elle me justifie de la mise en œuvre d'un dispositif anticorruption ? Et d'ailleurs, est-ce que je peux lui demander quelque chose ?
Alors, vous pouvez tout à fait lui demander. Après, elle n'a pas nécessairement l'obligation de vous répondre, mais une fois de plus, elle y a intérêt. Alors, d'une part, ce qu'on peut recommander, c'est à cette entreprise de répondre le plus honnêtement et dans les délais aux questionnaires qui vont lui être adressés par cette collectivité ou par ses clients. La collectivité, dans ce cas-là, est un client. Ou par ses fournisseurs lors de la procédure d'intégrité des tiers, d'évaluation de l'intégrité des tiers. Elle peut également, cette entreprise, volontairement communiquer son code de conduite ou une version raccourcie de son code de conduite à l'ensemble de ses partenaires pour témoigner de son engagement en faveur de la lutte anticorruption. Elle peut aussi, dernier exemple, lors de la négociation contractuelle, insérer un certain nombre de clauses anticorruption, évidemment, mais aussi une clause d'audit qui va permettre, si le principe en est accepté entre les deux co-contractants, de procéder à des vérifications sur pièce et sur place afin de se fonder une opinion quant à l'existence et à l'efficacité d'un dispositif anticorruption de ce tiers. Voilà quelques-unes des mesures qui peuvent être prises afin de gérer ce risque de corruption dans une relation entre une collectivité et une entreprise.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, je crois que nous avons fait le tour de la question. Et nos auditeurs et nos auditrices en savent un petit peu plus sur ce qu'il convient de faire en matière d'anticorruption lorsqu'on est une entreprise publique ou privée. Monsieur Clady, il ne me reste plus qu'à vous remercier.
Merci à vous.
Mise au point. Le magazine des politiques publiques.